écouta le dies irae. Il considérait les assistants, tâchait de voir les peintures trop élevées qui représentaient la vie de Madeleine. Heureusement, Pellerin vint se mettre près de lui et commença tout de suite, à propos de fresques, une longue dissertation. La cloche tinta en sortit de l'église. Le corbillard, orné de draperies pendantes et de hauts plumets, s'achemina vers le Père Lachaise, tiré par quatre chevaux noirs ayant des tresses dans la crinière, des panaches sur la tête, et qu'enveloppaient jusqu'aux sabots de larges carapaçons brodés d'argent. Leur cocher, en botte à l'écuyère, portait un chapeau à trois cornes avec un long crêpe retombant. Les cordons étaient tenus par quatre personnages, un questeur de la Chambre des députés, un membre du Conseil général de l'Aube, un délégué des Houilles et Fumichon comme ami. La calèche du défunt et 12 voitures de deuil suivaient. Les conviés, par derrière, emplissaient le milieu du boulevard. Pour voir tout cela, les passants s'arrêtaient. Des femmes, leurs marmots entre les bras, montaient sur des chaises. Et des gens qui prenaient des chopes dans les cafés apparaissaient aux fenêtres, une queue de billard à la main. La route était longue. Et comme dans les repas de cérémonie où l'on est réservé d'abord, puis expansif, la tenue générale se relâcha bientôt. On ne causait que du refus d'allocation fait par la chambre au président. M. Piscatori s'était montré trop acerbe. Montalembert, magnifique, comme d'habitude, et M. Chambol, Pidou, Creton, enfin toute la commission, auraient dû suivre, peut-être, l'avis de M. Quentin Bochard et Dufour. Ces entretiens continuèrent dans la rue de la Roquette, bordée par des boutiques, où l'on ne voit que des chaînes en verre de couleur et des rondelles noires couvertes de dessins et de lettres d'or, ce qui les fait ressembler à des grottes pleines de stalactites et des magasins de faïence. Mais devant la grille du cimetière, tout le monde, instantanément, se tut. Les tombes se levaient au milieu des arbres, colonnes brisées, pyramides, temples, dolmens, obélisques, caveaux étrusques à portes de bronze. On apercevait dans quelques-uns des espèces de boudoirs funèbres, avec des fauteuils rustiques et des pliants. Des toiles d'araignées pendaient comme des haillons aux chaînettes des urnes, et de la poussière couvrait les bouquets à rubans de satin et les crucifix. Partout, entre les balustres, sur les tombeaux, des couronnes d'immortels et des chandeliers, des vases, des fleurs, des disques noirs rehaussés de lettres d'or, des statuettes de plâtre. Petits garçons et petites demoiselles, ou petits anges tenus en l'air par un fil de laiton. Plusieurs même ont un toit de zinc sur la tête. D'énormes câbles en verre filé, noir, blanc et azur, descendent du haut des stèles jusqu'au pied des dalles, avec de longs replis, comme des boas. Le soleil, frappant dessus, les faisait scintiller entre les croix de bois noir, et le corbillard s'avançait dans les grands chemins, qui sont pavés comme les rues d'une ville. De temps à autre, les essieux claquaient, des femmes à genoux, la robe traînant dans l'herbe, parlaient doucement aux morts. Des fumignons blanchâtres sortaient de la verdure des ifs. C'étaient des offrandes abandonnées, des débris que l'on brûlait. La fosse de M. d'Ambreuse était dans le voisinage de Manuel et de Benjamin Constant. Le terrain déballe en cet endroit par une pente abrupte. On a sous les pieds des sommets d'arbres verts. Plus loin, des cheminées de pompes à feu, puis toute la grande ville. Frédéric put admirer le paysage pendant qu'on prononçait les discours. Le premier fut au nom de la Chambre des députés, le deuxième au nom du Conseil général de l'Aube, le troisième au nom de la Société houillère de Saône-et-Loire, le quatrième au nom de la Société d'agriculture de Lyon. Il y en eut un autre au nom d'une société philanthropique. Enfin, on s'en allait, lorsqu'un inconnu se mit à lire un sixième discours au nom de la Société des antiquaires d'Amiens. Et tous profitèrent de l'occasion pour tonner contre le socialisme, dont M. d'Ambreuse était mort victime. C'était le spectacle de l'anarchie et son dévouement à l'ordre qui avait abrégé ses jours. On exalta ses lumières, sa probité, sa générosité et même son mutisme comme représentant du peuple, car s'il n'était pas orateur, il possédait en revanche ses qualités solides, mille fois préférables, etc., avec tous les mots qu'il faut dire, fin prématurée, regrets éternels, l'autre patrie, adieu, ou plutôt non, au revoir. La terre, mêlée de cailloux, retomba, et il ne devait plus en être question dans le monde. On en parla encore un peu en descendant le cimetière, et on ne se gênait pas pour l'apprécier. Hussonnet, qui devait rendre compte de l'enterrement dans les journaux, reprit même, en blague, tous les discours. Car enfin, Le bonhomme d'Ambreuse avait été un des pot-de-vinistes les plus distingués du dernier règne. Puis, les voitures de deuil reconduisirent les bourgeois à leurs affaires. La cérémonie n'avait pas duré trop longtemps, on s'en félicitait. Frédéric, fatigué, rentra chez lui. Quand il se présenta le lendemain à l'hôtel d'Ambreuse, on l'avertit que madame travaillait en bas, dans le bureau. Les cartons, les tiroirs étaient ouverts pêle-mêle, les livres de compte jetés de droite et de gauche. Un rouleau de paperasse ayant pour titre « Recouvrement désespéré » traînait par terre. Il manqua tomber dessus et le ramassa. Madame d'Ambreuse disparaissait, ensevelie dans le grand fauteuil. « Eh bien, où êtes-vous donc? Qu'y a-t-il ? » Elle se leva d'un bond. « Ce qu'il y a ? Je suis ruinée, ruinée, entends-tu ? » Monsieur Adolphe Langlois, le notaire, l'avait fait venir en son étude et lui avait communiqué un testament écrit par son mari avant leur mariage. Il léguait tout à Cécile, et l'autre testament était perdu. Frédéric devint très pâle. Sans doute elle avait mal cherché. « Mais regarde donc !» dit madame d'Ambreuse en lui montrant l'appartement. Les deux coffres-forts bâillaient, défoncés à coups de merlin, et elle avait retourné le pupitre, fouillé les placards, secoué les paillassons, quand tout à coup, poussant un cri aigu, elle se précipita dans un angle où elle venait d'apercevoir une petite boîte à serrure de cuivre. Elle l'ouvrit, rien. « Ah ! Le misérable, moi qui l'ai soigné avec tant de dévouement !» Puis elle éclata en sanglots. « Il est peut-être ailleurs, » dit Frédéric. « Eh non, il était là, dans ce coffre-fort, je l'ai vu dernièrement. Il est brûlé, j'en suis certaine. » Un jour, au commencement de sa maladie, M. d'Ambreuse était descendu pour donner des signatures. C'est alors qu'il aura fait le coup. Et elle retomba sur une chaise, anéantie. Une mère en deuil n'est pas plus lamentable près d'un berceau vide que ne l'était Madame d'Ambreuse devant les coffres-forts béants. Enfin, sa douleur, malgré la bassesse du motif, semblait tellement profonde qu'il tâcha de la consoler en lui disant qu'après tout, elle n'était pas réduite à la misère. « C'est la misère, puisque je ne peux pas t'offrir une grande fortune. » Elle n'avait plus que 30 000 livres de rente, sans compter l'hôtel, qui en valait de 18 à 20, peut-être. Bien que ce fût de l'opulence pour Frédéric, il n'en ressentait pas moins une déception. Adieu ses rêves et toute la grande vie qu'il aurait menée. L'honneur le forçait à épouser Madame d'Ambreuse. Il réfléchit une minute, puis, d'un air tendre, « J'aurai toujours ta personne. » Elle se jeta dans ses bras, et il la serra contre sa poitrine, avec un attendrissement où il y avait un peu d'admiration pour lui-même. Madame d'Ambreuse, dont les larmes ne coulaient plus, releva sa figure, toute rayonnante de bonheur, et lui prenant la main, « Ah, je n'ai jamais douté de toi, j'y comptais. » Cette certitude anticipée,